Mahmoud Nassimi, de Kaboul à Victor Hugo.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
En quittant, ou plutôt en fuyant l'Afghanistan en 2013, Mahmoud Nassimi ne parlait pas un mot de français. Et pour tout dire, cet étudiant en sciences politiques était fâché avec les livres. Il préférait courir après le cerf-volant. Aujourd'hui, et après 730 jours de traversée dans l'enfer migratoire, il ne jure que par Baudelaire, Balzac, Hugo et Camus. La langue française est devenue le refuge de cet étranger qui bénéficie auprès de l'OFPRA d'une protection subsidiaire. Ne serait-ce pas ça le plus étrange, bel étranger ? Rencontre en sol majeur avec celui qui a construit une relation poétique avec les cimetières, celui du Père Lachaise à Paris en particulier, et qui publie dans une langue qui n'est pas la sienne, Un Afghan à Paris.
Hier, une personne sur 10 au moins était ingénieur, médecin ou poète. Aujourd'hui, sur 10 personnes au moins, une d'elles est accro à la drogue, poison vital. Hier, les femmes laissaient leur nom dans l'histoire de leur pays. Aujourd'hui, dans la plupart des endroits, après avoir été exclues de l'école, elles n'ont pas d'autre avenir que celui de rester confinées, de recevoir des coups, d'être obligé par la force de porter le hijab, d'être empêché de travailler. Hier, certains passaient presque toute leur vie à étudier et à chercher comment servir leur pays et leurs compatriotes. Aujourd'hui, ils vivent à l'étranger et travaillent comme jardiniers pour survivre. Hier, le gouvernement était formé de personnalités honnêtes et talentueuses et le pays était fier de son premier astronaute, Abdelahad Mohmand, qui avait en 1988 emporté dans l'espace le drapeau de l'Afghanistan.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.
Bonjour Mahmoud Nassimi.
Bonjour.
Et Malhaba, bienvenue.
Merci.
Alors c'est fou ce que cette chanson va bien à votre cœur afghan. Pourquoi est-ce que vous aimez « Hier encore » de Charles Aznavour ?
En fait, l'âge de 20 ans, c'est un temps de folie pour tout le monde, je pense. Donc moi aussi, dès que je l'ai entendu pour la première fois, ça m'a touché beaucoup. Et même, je l'ai écrit, cette chanson, dans mon cahier.
Et vous, vos 20 ans, vous vous en souvenez ?
Oui, je me souviens, mais à ce moment-là, j'étais au milieu de la poussière de l'apôtre à Canaux.
On va essayer de retourner à Jabal Sarraj, où vous êtes né, pour vous raconter.
Quand vous entendez le chant du muezzin, que ressentez-vous?
Ah ben, c'est un sentiment particulier. C'est un sentiment que, pour le moment, je ne peux pas l'exprimer, mais je sens quelque chose à l'intérieur.
Et c'est difficile de le dire parce que...
Pour le moment, c'est difficile, comme pour la chanson de Charles Aznavour, je n'ai pas assez de mots à m'exprimer. Et pour celle-là aussi.
Oui. Pourtant, vous écrivez, hein, et vous écrivez bien en français, on va y venir. Quelles images vous gardez de votre enfance passée dans la province de Parwan, donc en Afghanistan, où vous êtes né en 87?
Les images de mon enfance à la campagne, c'est la nature, les chèvres, les vaches, les fruits, les légumes, et chasse des oiseaux qu'aujourd'hui... Je regrette beaucoup.
Ouais. Vous grandissez au sein d'une famille ouverte et éduquée. Vous allez commencer vos études à Kaboul et vous orienter vers les sciences politiques. Qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier?
Je nourrissais le rêve qu'un jour je vais devenir un personnage politique dans la société. Pour ça que même c'était le contre le choix de ma famille.
Ah bon?
Mais malheureusement que je ne l'ai pas terminé.
Pourquoi est-ce qu'on n'était pas d'accord dans la famille pour que vous fassiez de la politique?
Parce que depuis 40 ans en Afghanistan, la situation politique est très compliquée. Pour ça que ma famille n'était pas contente que je fasse ces études.
Parce qu'effectivement, votre pays vit depuis des décennies une instabilité chronique. La guerre, les coups d'État, l'intervention soviétique, bien sûr, jusqu'à la nomination en 87 de quelqu'un dont vous m'avez parlé, Mohammad Najibullah, qui sera le cinquième président d'Afghanistan,
oui.
Et dont vous dites, Mahmoud, que c'est votre héros. Pourquoi?
En fait, il était un homme extraordinaire. Il voulait que l'Afghanistan soit en paix. Et il avait proposé à toutes les oppositions politiques qui vont ensemble construire un gouvernement pour qu'il soit la paix pour tout le monde. Et c'était l'époque dorée de mon pays. Donc malheureusement que les autres oppositions n'ont pas accepté.
Et donc il sera renversé en 92?
Oui, il était réfugié aux Nations Unies pendant quelques années.
4 ans.
4 ans. Et après, à l'arrivée des talibans, et il est décédé.
L'amour du pays, au sens patriotique, j'ai l'impression que vous le devez à votre grand-père, Mahmoud Nassimi.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faisait, votre grand-père?
Il était un général militaire, un général Kounou. C'était l'époque du premier président de l'Afghanistan. Mais moi, je ne l'ai jamais connu.
Donc, il y avait son portrait dans la maison, j'imagine.
Oui, et surtout quand j'étais enfant, au sous-sol, il y avait tous ces objets militaires. Et dès mon enfance, je jouais avec ces objets. Pour ça que j'ai nourrissé le rêve de devenir un personnage politico-militaire.
Page 7 de votre livre, le premier livre que vous avez publié à quatre mains avec Annabelle Rioux, qui est édité en ligne sur Livre en papier. Ce livre s'appelle « De loin, j'aperçois mon pays ». Vous dites « Un triste jour d'avril 2013, je suis obligée de quitter précipitamment mon pays, sans bye-bye, sans un au revoir. J'étais alors interne dans un centre d'entraînement à Kaboul où j'étudiais pour entrer dans les forces de l'ordre, animée par l'envie de servir mon pays. » Mais vous n'en dites pas plus, en fait. On ne sait pas pourquoi vous avez vraiment été poussée à quitter subitement l'Afghanistan.
Beaucoup de mes amis ont posé cette question et moi je n'ai pas raconté dans le livre. D'abord, je n'ai pas envie de le raconter et deuxièmement, c'est entre nous et le gouvernement ici à l'OFRA ce que j'ai raconté. Donc, pour ne pas avoir un problème au futur, je n'ai pas raconté dans le livre.
Donc, on va respecter votre silence.
M comme mal de mer.
Alors votre récit de loin j'aperçois mon pays, Paris-Bruxelles en 730 jours, déroule un périple mortel, le vôtre. Vous quittez l'Afghanistan en 2013. Vous arrivez en Belgique en 2015, c'est-à-dire que vous avez mis 2 ans en croisant quotidiennement la mort, la prison, l'amitié parfois, notamment avec un vieux jésuite, quelques rares sauveurs aussi, la traîtrise, notamment de la part du réseau des passeurs et des agents de passage. Heureusement, vous avez une aide financière de la part de votre famille qui peut régulièrement vous envoyer de l'argent. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez une scène de ce périple. Un jour, il y a un agent de passage qui vous demande 6 000 euros pour un bateau de croisière qui devrait vous emmener jusqu'en Italie. À quoi ressemble ce bateau de croisière, Mahmoud Nassimi ?
Alors, tout d'abord, je voudrais remercier encore une fois Annabelle Rioux pour sa plume puissante. Et là, quand j'étais en Turquie, le passeur nous a proposé qu'on va vous envoyer en Italie directement sans aucun problème. Donc chacun va payer 6 000, 7 000, jusqu'à 15 000 euros. Donc ce qu'il nous avait proposé, que c'est un grand bateau. Vous pouvez fêter, organiser des soirées jusqu'en Italie. Tout est bien, il y a des restaurants, des cuisines, des jacuzzis, de la piscine. Quand on était arrivé, c'était un petit bateau à pêche. On était 150 dans 8 cabines de 2 mètres carrés, l'un sur l'autre. C'était un cauchemar. Et premier soir, quand le bateau est parti de l'île de Turquie, on a demandé des capitaines. Alors, c'est où notre bateau, notre croisière, la piscine, tout ça? Et il nous a menacé. Et garder le silence, peut-être que le trajet va durer 5 jours ou 6 jours. Donc là, à chaque moment, je voyais l'amour dans les yeux de mes camarades. Et on avait envie de dire quelque chose, de s'exprimer, mais la voix était déjà morte dans la gorge. Donc la deuxième nuit, il y avait la tempête. On était dans la gorge de l'amour, mais je voulais crier pour que mes amis et ma famille sachent que je vais noyer dans la mer Méditerranée.
Vous ne savez pas nager, hein ?
Exact. Et moi, je ne savais pas nager. Donc, c'est ça que je voulais crier, pour que les gens savent, mais sans aucune voix.
Oui, c'est un résumé, ne serait-ce que cette scène, de tout ce que l'être humain peut vivre de pire et de meilleur aussi. Hein, parce qu'il y a des gestes de solidarité, comme il y a des grands gestes de traîtrise absolue. Mi-juin 2013, je ne donne que 2 séquences de cette traversée incroyable que vous racontez. Vous arrivez en Grèce, sous la responsabilité de la Croix-Rouge. Et là, vous êtes très en colère, Mahmoud, parce que vous vouliez à tout prix éviter la Grèce.
Bon, en fait, la Grèce, j'étais beaucoup torturé. Même dans le livre, je n'ai pas raconté tout ce que j'ai vécu. Mais il y a un moment, j'étais dans le camp, que c'était épouvantable. Je voyais les gens qui, après quelques jours, devenaient fous, en commençant à manger des papiers, fermer la bouche avec les fils.
Vous ne vouliez pas passer par la Grèce pour cette question d'empreinte digitale?
Oui, je voulais éviter cette empreinte digitale, mais malheureusement, enfin, j'ai tracé mon empreinte dans tous les pays.
La détention rend fou. Vous racontez ce jour où cet Afghan se coule les lèvres.
Oui.
Vous racontez ce jour aussi où un autre est nu, s'est pissé dessus, oui, et il est en train de manger du papier journal. Et vous, Mahmoud Nassimi, pour ne pas devenir fou, un jour dans ce camp qui s'appelle le camp d'Amygdaletsa, donc en Grèce, vous avez une idée.
L'un de mes amis bangladais me dit qu'il aimerait jouer aux échecs. Avant, en Afghanistan, j'ai joué de temps en temps avec des amis. L'idée me plaît. Sur un morceau de drap blanc déchiré, je dessine des cases avec un stylo à billes. Dans les boîtes en plastique, je tape d'une repas, je fabrique des pions. En y mélangeant mie de pain, sucre et dentifrice achetés au marché de Caen. De mémoire, je tente de reproduire les formes, puis laisse sécher mes figurines une journée au soleil. Pour les noirs, j'ajoute du café à ma mixture. Nos parties d'échecs créent un certain engouement autour de notre conteneur.
Alors ça, c'est votre très très grande force dans cette traversée de l'enfer, Mahmoud Nassimi, durant ces deux années où vous n'avez plus de pays, plus de toit, plus de papier, plus de liberté et souvent plus de dignité. Tout ce que vous racontez, là on vient d'effleurer un tout petit peu de ce périple mortel le plus souvent. Vous traversez tout ça avec un mental exceptionnel qui résiste. Grâce à quoi vous résistez, vous pensez ?
Avoir à la vie. Et aujourd'hui, j'aime cette phrase de Spinoza qui a dit « Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. »
Alors aujourd'hui, l'OFPRA, donc cet office français de protection des réfugiés et des apatrides, vous a accordé ce qu'on appelle une protection subsidiaire. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est une protection qui est attribuée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'obtention du statut de réfugié. J'imagine que vous ne pouvez pas nous dire exactement en détail pourquoi vous ne remplissez pas ces conditions, mais on reste surpris quand on devine ce que vous avez pu traverser en quittant l'Afghanistan.
Oui, c'est vrai, mais moi aussi, je ne sais pas. Mais pour le moment, j'accepte. C'est le roi. Et surtout que je suis content parce qu'après des années, je l'ai reçu. Et maintenant, je suis autorisé à travailler, à voyager. Mais pour les autres, c'est le gouvernement qui décide, pas moi.
Vous savez ce qu'on va faire ? On va dresser un tapis rouge sous ses pieds, comme lorsqu'il arrive en Inde en star. Je parle de Mohammed Hussein Sarahang. C'est un immense musicien afghan qui vous rappelle quoi, à vous, Mahmoud Nassimi ?
Il me rappelle un souvenir. J'avais un ami qui était très cher à mon cœur. Il est parti en Angleterre et on a tous les deux entendu cette chanson tout le temps. Et cette chanson, Mohamed Hossein Sarrarin, qui l'a chantée pour son amour, mon champ de fleurs est brûlé. Et le fleur est parti de mon côté. Je pense qu'il était amoureux et après son séparation, il a chanté cette chanson qui me marque beaucoup.
Et qu'est devenu cet ami parti en Angleterre ?
Ah bah, il est acteur et artiste.
Mais écoutez, ça fait deux bonnes nouvelles avec vous qui êtes dans le studio en sol majeur en train de publier un livre, franchement. Ouais. Alors, puisqu'on est un petit peu dans la question de la langue avec cette chanson, ça fait combien d'années maintenant que vous parlez français, que vous êtes... en terre et en langue française?
Ça fait 3 ans et quelques mois, depuis fin 2017.
C'est incroyable de la manière dont vous parlez. Mais est-ce qu'il y a encore, j'imagine que oui, bien sûr, des mots que vous ne pouvez dire qu'en dari, c'est-à-dire votre langue maternelle?
Oui, bien sûr. Surtout, il y a des mots qu'on exprime l'amour. Par exemple, « Jigarom azizom nosdonem hastim yakdonem malikero yohaim » C'est-à-dire ces mots, mon corps, mon chéri, mon chouchou, quand on exprime l'amour, je suis incapable de le dire en français.
Aujourd'hui, vous donnez des interviews en français. Enfin, peut-être que c'est votre première interview en français, Mahmoud, ou vous en donnez quand même régulièrement?
À la radio, c'est la première fois.
Malhaba. Vous écrivez aussi en français. Vous avez écrit un premier livre en français dont on va parler. Mais évidemment, ça ne doit pas faire oublier que vos premiers jours au pays de Voltaire ont été souvent difficiles.
Oui.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile, vous diriez ?
J'ai passé à peu près 3 semaines dans la rue, sur les bancs, dans des gares, dans les parcs. Je n'avais pas logement, donc c'était extrêmement difficile. Et surtout, à Jaurès, quand on voulait déposer notre demande. À l'époque... Il y avait un bureau administratif à Jaurès. Mmh, à Paris. Donc là, il y avait la cour des réfugiés de 500, 300, 200. Et chaque nuit, il y avait la guerre entre eux pour être en premier rang. C'était une catastrophe. Mmh. Et dans la journée, fatigué, triste, mentalement et physiquement, affamé, je marchais dans les rues et les gens tournaient la tête. Ça me blessait énormément.
Vous ne vous plaignez jamais, en fait, ni de la faim, ni du froid, ni du traitement, finalement, que le pays d'accueil vous inflige. Mais de voir dans les yeux des gens à Paris le mot « réfugié », ça vous blesse.
Exactement. Mais moi, je n'aime pas me plaindre, c'est vrai, parce que je pense qu'il y a beaucoup de belles choses dans la vie dont on peut parler.
Alors, il y a eu des jours difficiles, à Paris même. Jusqu'à ce jour où vous mettez les pieds dans un cimetière.
Qu'aimeriez-vous qu'on lise comme épitaphe sur votre tombe?
Ici repose un homme qui était amoureux de la vie et des livres. N'attendez pas pour ouvrir un livre, car demain n'est pas une promesse.
Waouh, vous avez ouvert votre portable et vous avez marqué cette citation. Qui est de qui?
De Mahmoud Nassimi.
C'est magnifique, vous vous citez maintenant. C'est vrai, alors c'est ça, c'est les livres. Hein.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, alors, le jour où vous êtes entré pour la première fois dans le cimetière du Père Lachaise à Paris?
C'était une révélation dans ma vie. C'était merveilleux. Je n'avais jamais imaginé un cimetière aussi beau, où chaque tombe serait une source d'inspiration et le début d'une aventure. C'est vrai que c'était dans des périodes difficiles. Et quand je suis entré dans le cimetière, j'ai vu chaque temple, l'écriture, les fleurs, la beauté, le marbre. Et puis j'ai commencé à chercher. Donc j'ai commencé d'abord par Balzac.
Oui, parce que dans ce cimetière, il y a beaucoup de personnalités qui font la culture française.
Oui, exactement. Donc quand j'ai vu la tombe d'Honoré de Balzac, moi... qui aimait beaucoup les militaires et la politique, quand j'ai vu son socle assis grand, imposant, je pensais qu'il devait être un commandant ou un général. Donc j'ai pris mon portable pour chercher sur Wikipédia. Et ce n'était pas un homme, c'était un monde. Et depuis ce jour-là, c'était lui qui m'a fait signe. Va, regarde, Proust est là, Éluard est là, Édith Piaf est là, Apollinaire est là. Donc petit à petit, j'ai commencé à faire des amis. Alors que dehors, dans le monde des vivants, je n'avais pas autant d'amis que j'avais dans ce jardin de fantômes.
Oui, non mais... Ils vous ont ouvert la porte et vous les avez accueillis avec leurs chansons, avec leurs romans, avec leur poésie, avec leur philosophie. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde, et le monde de la culture française, qui est rentré chez vous.
Oui.
Et ça, ça change tout.
Évidemment. Alors moi, en étant un enfant, je détestais les livres et les cahiers. Mais tout d'un coup, ils sont devenus mes amis proches. C'est grâce à... la littérature française et le cimetière de Père Lachaise.
Est-ce que c'est aussi grâce à cette traversée? Parce que ça vient quand même après 2 ans d'une expérience de vie terrible.
Oh ben, bien sûr. Alors d'abord, c'est la littérature et le cimetière. Et puis, il y a d'autres raisons aussi que j'ai commencé à écrire. Par exemple, c'est l'amour de ma patrie, de mes compatriotes, qui brûle dans la flamme de l'injustice. Et puis... le traversée que j'ai passé pendant 2 ans, et puis ça fait à peu près 8 ans que je suis loin de mon pays, de ma famille. Donc il y a tant de souffrances, tant de peines à l'intérieur, mais grâce à la littérature française, je peux le transformer en une sorte de lumière et joie.
Donc j'ai cette image de vous, Mahmoud Nassimi, vous devant une tombe qui est celle d'un poète ou d'un romancier ou d'un chanteur qui vous insuffle de la vie. C'est une image incroyable.
Oui. Et là, à ce moment-là, quand chaque fois que j'y vais, par exemple dans le cimetière Montparnasse ou Père Lachaise, quand j'entre dans le cimetière, j'ai un sentiment que je suis un morceau de nuage. Et quand je sors, je me trouve moi-même. La France est le pays où, jour et nuit, j'ai fait des brouillons pour construire mon nid. Je ne me lasse pas l'odeur de pain chaud, de la tasse de café accompagnée d'un croissant le matin, des cloches des églises qui rythment le jour, de l'atmosphère foutrée des bibliothèques, inspirée par le souvenir des plus grands écrivains et philosophes. Dans chaque petite rue où je marche, j'entends le murmure d'Edith Piaf, de Barbara ou de Francis Gabriel, et d'autres voix inoubliables qui chuchotent à mes oreilles. La voix miraculeuse de Jacques Brel, venue du nord, et la voix dorée de Georges Brassens, venue du sud, construisent pour moi une grotte de diamants à l'ombre de laquelle je me sens protégé. Aucun autre pays ne peut sans doute me donner, à l'heure actuelle, une telle jouissance de la vie sur terre que la France.
Écoutez, j'aimerais que nos dirigeants lisent cette déclaration d'amour pour la France à travers ses artistes. C'était extrait en sol majeur de Un Afghan à Paris, donc vous faites publier Mahmoud Nassimi aux éditions du Palais. C'est-à-dire que cette France, vous l'aimez avec ses qualités et ses défauts.
Oui. Bon, en fait, c'est sûr que j'ai souffert beaucoup à mon arrivée en France. Mais là, je peux dire dans une phrase, je suis né pour la 2e fois dans ma vie. Et c'est en France, dans le cimetière de Père Lachaise. La littérature française me permit de se lever le voile qui avait caché la beauté du monde.
Et vous aimez en particulier Paris?
Oui.
J'ai l'impression, quand je vous lis... parce que vous avez des images, c'est un Paris du 19e siècle hein, en même temps, ou du 20e siècle.
Du 19e et du 20e.
Voilà, vous dites « j'aime surtout Montmartre », j'imagine Gérard de Nerval ou Guillaume Apollinaire assis sous un arbre, plume à la main. Qu'est-ce que, dans son cabaret du Lapin Agile, chaque fois que je vais chercher l'inspiration, j'imagine Gérard de Nerval ou Guillaume Apollinaire.
En fait, à mon arrivée, c'était un choc. Parce que je suis passé par un ami à Porte de la Chapelle, qui avait tous ces vendeurs qui criaient la cigarette et d'autres choses.
Alors ça, c'est le coin des migrants, hein, de l'arrivée des migrants à Porte de la Chapelle. Là, on n'est pas dans le Paris mythique et historique.
Ouais. Donc l'image que j'avais dans ma tête quand j'étais petit en Afghanistan, les gens me disaient que Paris est, est une ville merveilleuse. C'est parfumé, c'est éblouissant. Donc quand je suis arrivé, mon ami m'a emmené à Porte de la Chapelle. C'était un choc. Je ne croyais plus que je suis à Paris. Et après ça, petit à petit, j'ai découvert la richesse de cette ville.
Aimer les artistes, les romanciers, les philosophes hein, aussi, ça c'est une chose. Mais en même temps, vous êtes passé à un autre stade. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire vous-même ?
Alors, en fait, c'est une langue magnifique. On peut s'exprimer tout ce qu'on veut. Surtout la déclaration de l'amour.
Plus qu'en Dari ?
Pour moi, oui. Parce qu'en Afghanistan, je n'avais pas l'intérêt avec la littérature. Et moi, je pense que c'est la seule langue au monde qui me permet d'exprimer mes sentiments.
Mais Mahmoud, écrire un premier livre en français qui s'appelle donc « Un Afghan à Paris », ça rappelle un Américain à Paris, hein. J'imagine que c'est inspiré, je ne sais pas. Ça vous a demandé un travail titanesque et la preuve par ce cahier que vous avez ramené, votre cahier d'écriture. J'aimerais bien que vous partagiez avec nous, vous l'avez sous les yeux, que vous le feuilletiez avec nous pour nous dire ce que vous avez compulsé d'une écriture très régulière sur tout un cahier.
Ce cahier, je peux dire que c'est ma vie en France. Donc chaque jour, je cherchais un écrivain, un poète, un philosophe et je le voyageais dans mon cahier. Par exemple, là, dans cette page-là, c'est Simone de Beauvoir. Donc, par exemple, où il est né, qui étaient ses livres. Et surtout, elle écrit une phrase que tout le matin, je le cite avec moi-même. « Le secret de bonheur et le comble de l'art, c'est de vivre comme tout le monde en étant comme personne. »
Magnifique. Il y a Beauvoir, Simone de Beauvoir, il y en a d'autres.
Il y a Gustave Flaubert, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Jacques Barrel, André Malraux, Voltaire, François de Chateaubriand. Il y a une phrase de Chateaubriand que j'adore. « La terre n'est que la cendre des morts pétrie de larmes des vivants. » Quand je vois ma patrie dans cette situation, voilà tout à fait cette phrase de
Chateaubriand.
Exactement.
C'est une volonté, parce qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'être français, etc. Certains intellectuels ou personnalités disent que le seul pays, c'est la langue. Vous, vous souhaitez devenir français, et c'est cette démarche qui vous fait écrire en français et maîtriser cette langue ?
En fait, je n'ai jamais pensé de devenir français, et même que je serais en Inde, aux États-Unis, ou en Afghanistan, ou en Palestine, la France soit dans mon cœur et dans ma tête.
Est-ce qu'écrire en français, pour vous, c'est écrire dans une langue étrangère ?
Non. Non. Alors, moi, plupart du temps, mes amis me demandent « Comment tu écris en français ?» alors que je ne suis pas capable de dire une phrase au subjonctif, au actif, au passif. Je ne connais pas du tout. Mais écrire, pour moi, c'est une passion. Je rassemble des mots tous les jours, puis je construis des phrases, puis aller d'une banlieue à l'autre chez les amis, en corrigeant, il m'en reste une moitié. Mais je ne me décourage pas. Comme ça, j'apprends la langue. Donc, écrire en français, pour moi, bien sûr que c'est extrêmement facile, mais en même temps, c'est la paix.
Extrêmement facile ou extrêmement difficile ?
Extrêmement difficile,
oui,
pardon.
C'est intéressant que vous disiez.
Pardon.
Non, vous avez le droit.
Mais c'est la paix pour moi.
C'est la paix.
Oui.
Et oui, tout est dit. Vous venez d'un pays en guerre et vous trouvez la paix dans cette langue.
Oui.
J'ai cette image de vous, enfant, en train de courir après un cerf-volant. Est-ce que vous diriez que votre nouveau cerf-volant, c'est l'écriture, c'est la littérature ?
Je peux dire oui. En fait, ce n'est pas juste le cerf-volant, c'est tous ces souvenirs durant mon enfance sans la langue française, moi je pense que je n'étais pas capable de le revivre.
Page 44 de Un Afghan à Paris, vous écrivez « Parfois je marche jusqu'à la Seine et autour de Saint-Sulpice, je sens la fumée de la cigarette de Jacques Prévert. Au café de Flore, je vois mon écrivain bien-aimé Albert Camus, assis en terrasse, un journal dans les mains, etc. » Alors on va ressusciter sa voix. C'est la voix d'un homme révolté qui aura beaucoup travaillé sur la notion de l'absurde que vous avez bien expérimenté dans votre traversée, Mahmoud Nassimi. On va l'entendre au micro d'un journaliste de 1955 qui lui demande pourquoi l'homme d'aujourd'hui serait plus sensible à l'absurde que l'homme du XVIIe siècle.
Naturellement, il y est plus sensible puisqu'il a perdu à la fois ses racines et ses cadres. Il est bien certain que l'Europe a perdu aussi bien ses religions que sa foi sociale, du moins en ce qui concerne l'Occident, et aussi que ses racines morales, si vous voulez. Naturellement, l'homme se sent plus solitaire, plus exposé en quelque sorte, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un sentiment de désarroi profond s'installe au cœur même de son être. En somme, je rendrai ce que je veux dire clair en rappelant ce que j'ai dit d'ailleurs dans un de mes livres, que l'Europe, qui en 50 ans a tué, déraciné ou déporté 70 millions d'êtres humains, n'est évidemment pas une terre où peut s'installer le confort et la satisfaction de soi, pour le moment au moins. Et on s'explique assez que l'homme européen aujourd'hui hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment qu'entre la servitude ou la folie. Mais je pense pour ma part qu'il y a un chemin qui passe entre la servitude et la folie et qui est celui que les intellectuels en particulier ont pour mission de repérer au moins.
Vous aviez déjà entendu la voix d'Albert Camus, Mahmoud Nassimi ?
Beaucoup.
Beaucoup, beaucoup.
Croyez-moi maintenant que mon corps tremble. Quand j'entends la voix d'Albert Camus et la voix de Jacques Baril, ces deux voix, je sens un sentiment indéfinissable.
C'est proche de vous. Il vous parle à vous.
Oui.
Camus qui dit à l'instant, donc là c'était en 55, que l'Occident a perdu à la fois ses racines et ses religions. Je me demandais ce que vous ressentiez, Mahmoud, devant nos églises qui sont effectivement presque vides.
Moi j'ai un esprit et un cœur ouvert. Je suis allé plusieurs fois dans les églises, dans les concerts, pour visiter. Pour moi, le monde est à vivre. Moi, je ne me concentre pas beaucoup sur les religions, sur les races. Sinon, au début, trois semaines que j'ai passées à Paris, moi, j'aurais terminé ma vie à ce moment-là.
Mmh. Vous ne vous concentrez pas non plus sur l'histoire. Est-ce que l'histoire de notre pays, la France, de celui qui est en train de devenir votre pays, est-ce que cette histoire vous intéresse ?
Oui, bien sûr. Oui. Parfois, je vois dans les documentaires qu'il y avait énormément de la guerre. Il y avait aussi de la misère. Oui, je vois de temps en temps, oui.
Camus et Sartre, côté philosophie, dans votre chambre intérieure, Mahmoud, Balzac et Proust, côté littérature. Alors, puisque vous aimez Proust, on va s'écouter un petit peu d'Amour de Swann, l'adaptation d'un Amour de Swann donc au cinéma par Volker Schlöndorff. C'est une scène où l'on entend la voix de Charles en narrateur, et puis, et c'est du coup pour cette raison que la voix va être étouffée, in situ, dans le décolleté d'Odette.
Mon amour pour Odette va bien au-delà des régions du désir physique. Il est si étroitement mêlé à mes actes, à mes pensées, à mon sommeil, à ma vie, que sans lui, je n'existerai plus.
Ça ne vous gêne pas que je remette droite les orchidées de votre corsage? Comme ça, en les enfonçant un peu, moi-même. Et si je les respirais, je n'en ai jamais senti.
Chaque matin au réveil, je sens à la même place, la même douleur. Je sacrifie mes travaux, mes plaisirs, mes amis, finalement toute ma vie, à l'attente quotidienne d'un rendez-vous avec Odette. Cette maladie qu'est mon amour en est arrivée à un tel degré qu'on ne pourrait me l'arracher sans me détruire tout entier. Comme on dit en chirurgie, il n'est plus opérable.
Petit cadeau en sol majeur pour vous, Mahmoud Nassimi, qui est très attentif. Expliquez-nous votre bonheur à lire Marcel Proust.
Quand j'ai ouvert pour la première fois du côté de chez Swann, dans les premières phrases, j'étais perdu et j'avais un sentiment qu'il écrit pour moi. Je n'ai pas le temps de siffler les bougies, de me dire « bonne nuit » et des longues phrases, j'adore. Bien sûr que chaque fois quand je lis une phrase, je commence et à la fin de phrase, je me suis perdu.
Mais vous y retournez.
Exactement. Et même, j'ai quelques passages de côté de chez Swann que je l'écris dans mon sac, sur les feuilles.
Et Baudelaire, alors, vous nous avez presque promis un bout de poème par cœur tout à l'heure.
Avec plaisir.
Enivrez-vous, ça fait comment ?
C'est Baudelaire qui a dit « Enivrez-vous ». Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu ? À votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise.
C'est votre test de naturalisation française, vous l'avez.
J'aime Baudelaire, j'aime ses poèmes. Bien que face à l'océan de la littérature française, je sois l'homme qui débarque avec son petit bateau, je me plonge avec délectation dans quelques poèmes de Baudelaire qui me font voyager de la douleur au plaisir, de la ruine au jardin et de la haine à l'amour.
Vous avez appris magnifiquement à nager. Quel est votre rêve ici en France, Mahmoud Nassimi ?
Je n'ai plus de rêve. J'en avais un, je l'ai trouvé, c'est le bonheur.
Quelles que soient les conditions de vie, si on ne vous accordait pas plus de droits ici en France, que cette protection subsidiaire, ça vous irait ? Non ?
Non.
Comment non ?
Parce que maintenant j'ai trouvé mon bonheur. Et mon bonheur ne demande pas à mes papiers, à mon travail, à ma condition de vivre, à mon logement. C'est quelque chose d'intérieur. J'ai beaucoup de désirs, de souhaits dans la vie, mais pas de rêves.
Est-ce que malgré toutes ces galères endurées pendant ces 2 années de périple entre l'Afghanistan et l'Europe, est-ce que malgré tout, vous êtes heureux d'avoir réussi à migrer ?
D'abord, je suis heureux d'être vivant. Deuxièmement, j'ai l'occasion de remercier celles et ceux qui m'ont aidé sur ce chemin-là et durant toute ma vie.
Merci beaucoup, Mahmoud Nassimi. Je sais que vous adorez le chanteur Jacques Brel et sa voix qui vous parle tellement au cœur. Mais il se trouve que par ici, on n'a jamais entendu un autre de vos choix, c'est Ahmed Zahir.
Oui.
Qu'est-ce qu'il évoque pour vous ?
Ahmed Zahir, c'est aussi un grand chanteur afghan dans les années 1970. Il a chanté centaines de chansons. Tous les Afghans l'y aimaient. Il est mon Jacques Brel afghan.
Ben voilà, tout va bien. Merci Mahmoud Nassimi, je conseille aux auditeurs en sol majeur Un Afghan à Paris qui vient de paraître aux éditions du Palais. Mille bravo à vous, c'est une leçon de vie d'amour aussi pour notre culture française, où l'on peut par exemple trouver ce genre de phrase.
Si l'immigration n'existait pas, comment un oiseau pourrait-il voyager de nord au sud pour charmer un petit poisson rouge de la mélodie de son chant ?
روزه مرا خواهد رسید در بحار روشن از امواج نور
Sol majeur qui plane, émission à réécouter en podcast sur votre application préférée, à retrouver aussi sur les réseaux sociaux et puis bien sûr derrière votre poste en direct chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous espère la semaine prochaine avec Claire Mouradian. À la semaine prochaine.
Tout à l'heure sur RFI.